quelque chose qu'ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas compris que il faut demander à Hachem. Et il donne. Il faut... Ici, évidemment, ils se sont plaints, mis, parce qu'ils disent quelque chose de... Dans le verset 3, ils disent des choses affreuses. Ils disent « Mi yiten mutenu bayad Hashem be'eretz Mitzrayim » Si seulement on était mort en Égypte par la main d'Hachem. Parce que quand on était en Égypte, alors de shiftenu al sir abassar, on était assis à côté des marmites de viande. Bochlenu lechem la sova, on mangeait du pain à satiété. Et là vous êtes venus, otsetem otanu, et la midbar azé, vous nous avez fait sortir d'Égypte, vous nous amenez dans ce désert, les hamites, et kolakaal azé, pour faire mourir toute cette assemblée. Donc ici, c'est une accusation, c'est pas que on n'a pas, il nous manque quelque chose, c'est comme si vous nous avez fait sortir pour nous faire mourir. Voilà, le Rabbi Mouk qui fait remarquer que, apparemment, ce ne sont que des particuliers qui ont formulé ces reproches contre Moshe et Aaron, mais le mécontentement était général. Bnei Israël, tous les Bnei Israël. Mais on voit que cette génération, peut-être ça veut dire quelques générations, qu'ils avaient perdu l'habitude de prendre soin eux-mêmes de leur subsistance. N'est-ce pas? Dans l'esclavage, c'est l'esclavage, mais on est pris en charge. Parce que c'est l'intérêt des maîtres que les esclaves mangent pour pouvoir travailler mieux, ou plus. Exactement comme les seigneurs nourrissent les bêtes de somme. Et donc, comme ils n'avaient pas l'habitude de se prendre en main, et ils ne savaient pas que il fallait, c'est une nouvelle habitude, une nouvelle chose. C'est en fait, c'est sortir vraiment de l'esclavage que de se prendre en main, y compris pour se nourrir. Mais c'est une épreuve qui n'est pas facile. Quand on a besoin d'eau, on a besoin de pain pour soi, pour sa famille, pour ses troupeaux, etc. Et on n'a rien, c'est le désert. Et il faut arriver à la conclusion que, voilà, dans cette situation-là, il faut se tourner vers Hachem et il faut demander. Et Hachem donne. Il faut intérioriser que la prière a une efficacité. Bien qu'on ne sache pas du tout comment c'est possible dans le désert. C'est pas du tout que, c'est à quelques kilomètres et on ne sait pas comment on y arrive. Mais ici, on n'a aucune idée. On est dans le désert, on n'a rien. Et on se tourne vers Hachem et... Il faut faire confiance à Hachem en quelque sorte que, voilà, on te le demande et on lui demande et il va le donner. Et donc, ça veut dire que quand tu demandes, tu présupposes que Hachem peut tout, qu'il peut nourrir dans le désert. Que de même qu'il y a de l'eau dans la mer, il peut y avoir de l'eau n'importe où. Alors Hachem a répondu, il a dit à Moshe Rabbeinu de répercuter cela, il lui a dit, Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Me voici. Ce Hineni est un peu surprenant. D'habitude, ceux qui disent Hineni, ce sont les hommes. C'est quand Hachem interpelle Abraham, alors Abraham répond, Hineni, je suis là, entièrement disponible. Moshe Rabbeinu nous dit, Hineni, je suis là. Tu peux me demander ce que tu veux. Je suis disponible, je ferai ce que tu me demandes. Ici, c'est Hachem qui parle. Hineni. Donc, d'une certaine façon, c'est comme... comme si Hachem voulait leur dire « Je suis à votre service, en quelque sorte. » C'est comme si Hachem répondait avec empressement, en quelque sorte. De ce point de vue-là, c'est un peu surprenant. Alors, il dit « Je vais faire pleuvoir. » Mamtir, c'est la pluie. Mais pour vous, je vais vous faire pleuvoir du pain du ciel. Alors, ce pain, il va tomber, c'est la fameuse manne, et ça va venir, comme nous allons expliquer, comme on va expliquer dans la suite, enrobé de rosée. Rabbi Akiva a dit que cette manne, c'est la nourriture des anges. La Gemara dans Chagiga, la Gemara elle énumère 7 ciels, des niveaux différents de ciel. Et il y a un ciel dans lequel on fabrique la manne. Pardon ?
Il est situé à quel niveau de cercle ?
C'est un cercle, bon, c'est un peu au milieu, quoi. Au milieu des. Bon, la nourriture, c'est très important. Ici, on va alors. Donner une nourriture quasiment, presque spirituelle. Elle sera matérielle, mais elle vient du ciel. Et donc c'est... plus tard, il va y avoir un texte qui va dire que l'onitna Torah est là le ochleman. La Torah n'a été donnée qu'à des gens qui mangeaient de la manne. Sous-entendu, s'ils avaient mangé un steak pommes frites, ils n'auraient peut-être pas reçu la Torah. C'est trop matériel, c'est trop gras, trop... On va voir que cette nourriture-là, c'est une nourriture qui n'a pas de lest, c'est-à-dire il n'y a rien à évacuer. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas une partie à évacuer, comme nous on a dans la nourriture que nous mangeons, il y a une partie qu'il faut évacuer. La manne, il n'y avait rien à évacuer. Et par la suite, quand ils vont se plaindre de la manne, les Bnei Israël, au bout d'un moment, ils vont dire on en a marre de la manne, et ils vont appeler ce pain l'Echem à Cloquel. Cloquel, ça s'écrit Kouf Lamed, Kouf Lamed. C'est-à-dire cal-cal, un pain qui est vraiment très 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 léger, qui effectivement, on se sent pas, ça remplit pas, on n'a pas l'impression d'avoir, bonsoir, on n'a pas l'impression d'avoir le ventre plein avec cette manne. Alors, dans Rashi, dans le Passouk, la suite du verset, c'est que En même temps que Moshe Rabbeinu a répercuté l'ordre, sur l'ordre que lui avait donné Hachem, de leur dire qu'il va leur faire pleuvoir de la manne. Alors immédiatement, dans le même verset, c'est assez curieux, immédiatement, Viatsa Am Velaktu, immédiatement le peuple est sorti, Velaktu Dvar Yom Beyomo, et ils ont récolté quotidiennement le Ma'an Anasenu Ayelech Betorati Imlo. Alors c'est pas que Veyatsa, ça veut dire le peuple va, c'est pas que ils l'ont sorti, c'est la promesse. Le peuple va sortir, il l'a dit à Moshe Rabbeinu. Ils vont devoir sortir pour aller récolter la manne quotidiennement. Et moi, dit Hachem, ce faisant, je vais les mettre à l'épreuve. Est-ce que Ayelech Betorati Imlo, est-ce qu'ils vont aller est-ce qu'ils vont se conduire selon ma Torah ou non? Alors, Rashi explique, sur Varyom Beyomo, c'est-à-dire Tzorech Achilat Yom Yelketu Beyomo. Ce qu'ils auront besoin pour chaque jour, ils le récolteront le jour même. Mais ils ne récolteront pas la manne aujourd'hui pour demain. Le manne anasenu ayalech betorati. Là, je vais les mettre à l'épreuve. Est-ce que ils se conduisent selon ma Torah? Et Rashi dit, im yishmeru mitzvot atluyot bo, shelo yotiru mimenu. Ici c'est au masculin parce que c'est appelé pain. La manne, elle va être, on va voir comment c'était masculin, féminin, mais là c'est considéré comme du pain. Et en tant que pain, c'est masculin. Je vais vérifier s'ils vont garder les mitzvot qui ont à voir avec le pain. Shelo yotiru mimenu. Quelle est la mitzvah? C'est-à-dire qu'ils n'en laissent pas de ce qu'ils auront récolté aujourd'hui. Hachem dit, je ne veux pas qu'ils en fassent des réserves pour demain. D'une part. Et l'autre halakha, c'est chez l'Oyetsu Beshabbat, l'Ilkot. Qu'ils ne sortent pas le jour du Shabbat pour récolter la manne. Alors pourquoi est-ce que la manne est donnée quotidiennement, jour par jour, pourquoi on ne la donne pas? Il y a un élève qui a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, il a demandé, mais pourquoi Hachem ne leur donne pas la manne une fois pour l'année, quoi? Voilà, tu récoltes une fois par an. Et alors il leur a répondu, c'est un roi qui, en fait, il donnait à son fils une allocation annuelle. Alors il voyait son fils une fois par an. Comme il voulait le voir plus fréquemment, alors il lui a donné des allocations quotidiennes ou mensuelles, etc. Comme ça, il le voyait plus. Pour les Bnei Israël aussi, on voit dans la Gemara, donc c'est Rabbi Shimon, le peuple juif de ce fait devait se tourner vers Hachem d'une certaine manière quotidiennement, par la prière, ou bien il devait penser au fait que voilà, je vais recevoir la manne. non, parce que là-bas, le korban, c'est... Ici, le but, ce qu'on veut pas, c'est que... On peut dire que ce qu'on veut, c'est les faire expérimenter leur dépendance d'Hachem quotidiennement. Dans le korban, c'est pas une question de dépendance. Il faut s'acquitter des obligations quotidiennes, c'est autre chose. Là-bas, on veut pas que tu en laisses pour le lendemain, parce que le lendemain, ça sera plus cachère, donc c'est pas une question de faire des réserves. Là-bas, je veux que tu t'efforces de faire les choses comme elles doivent être faites. Tous les korbanotes ont une kedusha, une sainteté. La sainteté, ça s'exprime toujours par des restrictions en temps et en lieu. C'est-à-dire, ça doit être mangé dans tel et tel laps de temps et dans tel et tel lieu. À l'intérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur de Yerushalayim, en Eretz Israël, etc. Ça, c'est les lieux. Et ça doit se manger en un jour, en deux jours, etc. C'est quand même assez intéressant, la comparaison qui est faite avec ce roi qui voulait voir son fils. Alors, il le voyait, mais il le voyait parce que l'autre était intéressé. Alors, quelque part, est-ce que ça a une tellement grande valeur? C'est-à-dire, il en était réduit, en quelque sorte, à espérer le voir de façon uniquement quand ce fils serait intéressé. Pardon ?
C'est une façon de les habituer. Ils
ne
peuvent pas tout de suite faire la chose.
Oui, non, c'est son fils. Ah, là-bas. Et nous, c'est pour prier quotidiennement. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il n'a pas donné la manne une fois par an. Il aurait pu nous donner de la manne une fois par an. Voilà. Et du coup, on aurait prié une fois par an pour la manne. Et là aussi, le problème, c'est Hachem nous met en situation de prier. Ça ne dérange pas, la prière est une demande. Quand Hachem demande, quand on dit que Hachem a rendu les matriarches stériles, enfin à l'exception de Léa, parce qu'il voulait entendre leur prière, mais c'est une prière de demande. Et là-bas, parce que dans la demande, c'est une expression de ce que je suis conscient de ma dépendance. Je sais, se tourner vers lui, c'est ça qu'il voulait. Qu'on se tourne vers lui, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? C'est se tourner vers lui pour se tourner vers lui, c'est tout. Sans qu'il y ait une demande, en fait. Mais ça n'existe pas, la prière qui soit sans demande. La prière enfin, c'est pas la prière, mais disons, ce serait dire la louange. Dire la louange, c'est sans demande. On dit les Tehillim, c'est sans demande. Je demande rien, je dis la louange. Mais la prière, c'est toujours une demande.
Mais ici, c'est quand même une demande qui est satisfaite. Elle est satisfaite quotidiennement et il y a un retour au manque quotidiennement.
C'est ça. Hachem veut nous faire expérimenter la dépendance pour qu'on comprenne bien. On est en réalité en... La vérité, c'est que s'il avait donné de la manne une fois par an, disons, alors on aurait dû comprendre la dépendance dans le fait que ça ne pourrit pas. D'accord ? Tout pourrit en général, finalement. C'est... Sauf des... Bon... Tu peux manger du sel, quoi. Mais disons, à part ça, à part du minéral, le reste... Tout ce qui est végétal, animal, tout ça, ça finit par pourrir. Donc il aurait fallu se tourner vers Hachem pour demander que ça ne pourrisse pas. Et Hachem, il a bloqué effectivement ça. Et on voit déjà cette histoire des choses qui ne pourrissent pas. Vous vous souvenez quand les Égyptiens sont venus chez Paro, ils ont dit on est obligé d'en passer par Yosef et Yosef nous met des conditions insupportables, on est obligé de vendre nos terres, etc. Alors Paro leur a dit, mais pourquoi n'avez-vous pas fait des réserves? Vous saviez qu'il y aurait des années de famine après les années d'abondance. Pourquoi n'avez-vous pas fait de réserves? Et le Midrash dit, ils ont dit, on a fait les réserves. Et ça a pourri. Bon, seules les réserves faites par Yosef dans les silos nationaux, je ne sais pas, disons, ces réserves-là n'ont pas pourri. Donc ici, ils ont compris qu'il se passe quelque chose de particulier. Pourquoi les réserves nationales, en fait, réserves de Yosef, ne pourrissent pas alors que les nôtres pourrissent? Donc on avait déjà cette idée que la hashgacha, c'est faire aussi que ça ne pourrisse pas, étant donné que c'est du végétal. Là, le problème, c'est est-ce que la nourriture céleste pourrit? D'accord? Est-ce que si la manne va pourrir? Je veux dire, qu'est-ce que c'est qui descendait du ciel? C'était du végétal? C'était du minéral? C'était du purement spirituel?
Puisque quand on attendait, c'était pas naturel.
Pardon?
La
non, alors c'est le contraire. C'est là-bas, Hachem a fait en sorte que ça pourrisse. Parce que naturellement, ça n'aurait pas pourri, parce que c'est pas ni végétal, c'est la nourriture du ciel, elle n'a pas de raison de pourrir. Quoi. De même que le minéral. Je vais couper là, parce que c'est dangereux ce que vous dites là. Ouais, les anciens inventaient un chemin.
Mais peut-être que ce chemin, en tout cas, vous ne nous en parlez jamais. Vous parlez toujours du chemin de Patriarche.
Ouais, ça y est, c'est dans mon jardin. D'accord.
Mais ça, bon, voilà. Donc il fallait peut-être qu'elle ait parcouru un chemin toute seule vers Hachem.
De Sarah, on dit qu'elle était plus grande qu'Abraham en prophétie.
Oui, mais.
Mais la prophétie, ça vous tombe pas dessus comme ça, ça nécessite une préparation. En tout cas, d'après Rambam. Il y a une discussion sur ce sujet parce que il y a un passouk au début du prophète Yirmiya, Jérémie. On a l'impression, il dit, Jérémie, quand Hachem lui parle, il dit, mais je suis un art. Et on a l'impression qu'il veut dire, je suis un enfant, mais s'il est un enfant, alors il n'y a pas eu de préparation. Comment c'est possible qu'il devienne prophète? Alors le mot nar ne veut pas obligatoirement dire un enfant. On dit de Yitzhak Avinu au moment de la Akeda qu'il s'appelle nar, il a 37 ans. Et de Yoshua qui était dans la maison, dans le Beit HaMidrash de Moshe Rabbeinu, qui était aussi déjà un grand adulte, aussi on l'appelle nar. Donc le mot nar ne veut pas dire, comme aujourd'hui on dit un nar, en général c'est un enfant plutôt, au mieux un adolescent. D'ailleurs, on dit ça sur Yosef, que ou Nahar, et on dit, ouais, parce qu'il se conduisait comme un ado, qu'il se faisait les yeux, il se faisait les cheveux, etc. Et là-bas, il a 17 ans. C'est pas non plus un bébé, je veux dire. Et donc, a priori, donc il y a un petit problème pour savoir comment on se débrouille, pour savoir si on peut avoir de la prophétie sans préparation, ou non. Mais bon, disons que, a priori, d'après Rambam, par exemple, c'est sûr qu'il en faut, il faut une préparation. Donc, tout ça, je le dis parce que si Sarah est devenue grande en nevoie, ça ne lui est pas tombé dessus comme ça, c'est la résultante d'un travail.
D'accord, alors ça veut dire que la relation que Hachem veut établir
Parce que ce sont les Imaot qui ont des enfants et que avoir un enfant, c'est une, disons, le rôle de mère, c'est un,
c'est un élément dans le rôle de femme. Une femme, elle peut être célibataire, la Torah n'oblige pas une femme à se marier, elle peut être mariée, elle peut être mère, mais tout ça, c'est pas sûr. Et comme en général, les femmes qui ne sont pas mères demandent à être mères, si on peut comme ça, en général, peut-être il s'agissait encore, en plus, c'était quand même des femmes qui savaient qu'elles avaient quelque chose à construire, de construire le clan d'Israël. Et donc, construire, c'était a priori en ayant des enfants. Et donc, Hachem les a attrapés là-dedans. Je veux dire, s'il aurait pu faire en sorte que je ne sache pas faire la cuisine, je ne sais pas.
On comprend quand même qu'Hachem veut qu'il y ait, disons, une progression
Qu'il y ait lieu à demande, quoi. Il y a une raison de faire une demande. Donc de prier.
Par rapport au
clan d'Israël, on peut penser aussi. La même chose, visiblement c'est ça. Je veux voir, je veux les faire. C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je veux les obliger à prier.
Mais on ne peut pas dire que les Imaot, parce que les Avot, il y a le Chesed, le
Agvura et le Emet.
Voilà. Alors que les Imaot, on ne leur attribue.
Si, on leur attribue à Sarah la Gvura pour compenser Abraham Avinu. Moi, je crois que je l'ai quand même dit une fois ou l'autre. Mais bon, on ne peut pas toujours tout dire.
Ah, d'accord, donc elles ont aussi inventé un chemin.
Oui, bien sûr. Vous voyez bien que si elle n'avait pas inventé un chemin, on ne peut pas comprendre Rivka. Si son chemin c'est simplement je fais ce que Yitzhak veut, ben alors qu'est-ce qu'elle fabrique là, toute la manipulation qu'elle fait derrière son dos, ou tout ce que font Rachel, Léa, le trafic derrière le dos de Yaakov et tout. Rivka est un chesed par rapport à la Gvura de Yitzhak. Rachel et Léa, elles ont les deux choses, puisque lui, il a les deux choses. Yaakov a les deux. C'est une espèce de la Tiferet, ou le Emet, c'est entre les deux. Un peu plus proche du Chesed, mais vraiment entre le Chesed et la Gvura. Le Ramban sur le verset Leman anasenu ayelech betorati, je veux pouvoir le tester, l'éprouver pour savoir s'il va selon ma Torah. Le Ramban dit nisayon hu lahem shelo haya biyadam mazon shelo yeh lahem lechem rak min hashamayim dvar yom beyomo. C'est une épreuve pour eux. Ils n'ont pas d'autre nourriture que cette nourriture-là. Et cette nourriture-là, ils doivent la demander chaque jour. Chazal disent, dans la sugya de la Emouna, disent que celui qui a littéralement, Mishiyesh lopat besalos, c'est une expression qui veut dire, celui qui a du pain dans son panier, veomer ma ochal le mecha, et qui demande, mais qu'est-ce que je vais manger demain? On dit, Arezé Mektane Emouna. Il fait partie des gens qui ont une Emouna faible. Ils sont petits en Emouna. T'as à manger aujourd'hui, alors voilà. C'est un manque d'Emouna de se demander qu'est-ce qui va se passer demain. C'est un grand Nisayon. Adam Rotse, chez Tielo Parnassa, Le Chola Pachot, le Mesher Shana. A priori, les gens, ils voudraient avoir une parnassa au moins pour l'année, quoi. Quelque part, bon, cette année, c'est réglé. Keshiyesh le Rak le Hayom, velol Machar, lorsqu'il a une parnassa pour aujourd'hui, mais il n'en a pas pour demain. Il commence à se... Oudoeg, c'est-à-dire en fait, il a un souci. Et ici, dans la manne, il n'avait de repas que pour le jour même, et pas pour le lendemain. Donc Hachem voulait savoir, est-ce que même dans cette situation-là, bien qu'il n'ait pas à manger pour demain, est-ce qu'ils vont... Ils vont se comporter selon la Torah. En vérité, c'est pas tellement clair. Qu'est-ce que c'est qui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'épreuve, je veux dire? Il n'y a pas. Ils n'ont pas à manger pour demain. Rashi a dit. Bon, le problème, c'était ne pas récolter, ne pas. Alors. Ça servirait à rien, ça n'a servi à rien finalement, blague. On va nous dire que finalement un jour ils sont allés, ils ont voulu faire des réserves pour le lendemain, et ça a pourri. Donc ça marche pas. Alors il dit, mitzvot atluyot bo. Qu'est-ce que c'est que les mitzvot qui dépendent du pain? C'est quoi? C'est faire la bracha, faire Birkat Hamazon, c'est ça le... Mais qui dit que sur la manne, on doit faire Bekat Amazon. Peut-être il faut faire la Mefia, peut-être il faut faire Boré Nefashot. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire, c'est peut-être ça. Peu importe, que ce soit Bekat Amazon ou simplement Boré Nefashot. Alors, le Hamek Davar, là-dessus, il dit... Non, je crois qu'on va dire que c'est comme de coriandre, non? Ils ont traduit ici, je crois que c'est comme du coriandre, non? Où j'ai vu ça? Ah oui, après quand ils vont sortir et ils vont voir ce que c'est, ils vont dire manhu, qu'est-ce que c'est? Ça avait l'air. Oui, manhu. Là, ils disent que. La manne est décrite comme ayant le goût d'une pâtisserie au miel ou à l'huile. C'est pas la même chose, hein. Aux jeunes gens, expliquait Rabbi Yossi ben Bachanina, elle offrait le goût du pain. Aux enfants, le goût du miel et aux vieillards, le goût de l'huile. La Gemara, elle dit, étant donné que la manne est une des dernières choses qui ont été créées au moment de la création, alors elle conserve en elle la richesse créatrice des origines. C'est un peu comme des cellules souches. C'est comme des cellules souches, ça peut prendre toutes les formes qu'on veut selon ce qu'on va en faire. Et c'est ce qu'on en voudra, ça aura le goût qu'on voudra. Alors où est-ce que c'est marqué cette histoire? Pardon? Oui, oui, oui. Mais elle peut prendre tous les goûts, justement. Oui, alors la consistance. sais pas, je le vois plus. Quelque chose qui m'échappe, là. Mais je crois l'avoir vu Coriandre. Quelque part. On verra si je le retrouve. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, le Amegdava. Le Amegdava, lui, le man anasenu ayaler betorato imlo. Est-ce qu'il va appliquer la Torah? Rashi a dit que, il avait dit donc que c'est les mitzvot qui sont liés avec la manne, avec ce pain là. Mais le Amegdava, lui, il lit autrement. Torati, c'est ma Torah. Donc lui, il apprend. Je voudrais savoir s'ils vont aller selon la Torah, c'est-à-dire Im yeh shoket b'Torah imlo. Je veux savoir, leur donnant du pain de cette manière-là, est-ce qu'ils vont s'investir dans l'étude de la Torah, puisque je les décharge complètement de la charge de chercher à manger. Il n'y a même pas à prendre des mesures pour conserver cette nourriture. Il n'y a rien. C'est le jour que tu vas ramasser, le jour même, ce dont tu as besoin, c'est tout. Faut pour le moment même pas faire la vaisselle. Oui. Tout change. Et comme on a vu, premièrement, ils doivent se prendre en charge eux-mêmes. Bon, ça veut dire. La prise en charge, ça consiste à demander à Hachem. Mais c'est une prise en charge. L'esclave, il ne demande pas à son maître. Son maître va lui donner à manger. Parce qu'il est intéressé, le maître. Parce qu'il est à manger pour mieux produire. Oui, c'est sûr. C'est sûr que le passage, la sortie de l'esclavage est une. C'est quelque chose qui va prendre très longtemps, jusqu'à ce qu'il soit vraiment sorti. Est-ce que disait. Vous vous souvenez de ça, on a vu, probablement. Quand les Égyptiens ont poursuivi les Bnei Israël, ont été paniqués. Et Abraham Ibn Ezra, il demande pourquoi ils ont eu peur. Ils étaient beaucoup plus nombreux que les Égyptiens. À la limite, ils se seraient mis 10 sur chacun des cavaliers égyptiens. Alors même si 5 étaient morts, mais le cheval et le cavalier, à la fin, ils sont morts aussi. Donc, au moins 50% des Bnei Israël auraient pu s'en sortir. Il donne cette réponse très intéressante. Il dit que dans leur tête, les Égyptiens étaient leurs maîtres. Ils ne pouvaient pas faire la guerre contre les maîtres. C'était pas encore possible. Et psychologiquement, ils étaient incapables de se révolter contre eux. Bon, alors, la guerre, non. C'est vraiment, essayer de les dominer, ça. C'était pas pensable. Ils sont pas en manque. Ils ont ce qu'il faut pour aujourd'hui. Le problème, c'est il faut arriver à ne pas se soucier de ce qui va se passer demain et s'occuper de Torah. C'était ça le problème. C'est la confiance. Et ça, c'est toujours, aujourd'hui aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, effectivement, bon, aujourd'hui, on dira que c'est de l'inconscience de ne pas se préoccuper du lendemain. Mais si on est au niveau. Il y a des gens qui s'en préoccupent pas et chez lesquels c'est vraiment de l'inconscience. On parle de quelqu'un qui serait au niveau de ne pas se préoccuper du lendemain. Ça, c'est presque incompréhensible. De ne pas savoir du tout ce qui se passe. Si vous regardez il y a un très joli film sur Avel Yashiv sur YouTube. C'est un film qui a été fait par quelqu'un de sa famille, de pas du tout religieux. Il y a une branche pas du tout religieuse des Eliashiv. Et il a voulu s'intéresser. Il a vu qu'on a écrit sur lui, etc. Alors le type, il s'est dit, il faut que j'aille regarder un peu ce qui se passe. Il n'est pas du tout devenu religieux, mais il regarde les choses très objectivement. Et il rapporte plusieurs fois que Rav Eliashiv, quand il était dans son limoud, il voyait rien du tout. Ils sont arrivés très souvent. Il y avait des classes entières d'enfants qui venaient prendre, ils voulaient avoir une bracha. Alors on les faisait entrer quand il était là, à ce moment-là c'est la fin de sa vie, donc il est comme ça, il lève pas la tête. Mais il les a pas vus du tout. Ses filles disent, il savait pas du tout ce qui se passait. C'est notre mère, elle l'a complètement déchargé de tout. Il savait pas du tout ce qui se passait avec lui. Quand il est dans le limoud, c'est rien du tout. Tu ne pouvais pas. Il raconte là-bas qu'il y a, je crois que c'est des petits enfants à lui qui, ils ont fait tout un détour pour venir le saluer. Et ils sont arrivés alors qu'il était. Il y avait un laps de temps, une petite fenêtre dans laquelle il recevait où on pouvait lui poser des questions. Et après le reste du temps, il voulait pas. Il a jamais accepté d'être totalement à la disposition. Il a dit, moi je l'aime, si on me pose des questions, je répondrai. Plus que ça, je ne m'engage pas. Et seulement, il avait. Alors, et ces petits enfants qui sont venus, ils sont arrivés juste un tout petit peu trop tard. Alors, il y avait leur oncle qui était là-bas. Ils ont dit, il a dit, je ne peux pas vous laisser entrer. Il dit, bon, et si on entre comme ça quand même, c'est votre responsabilité, moi, je ne vous laisse pas entrer. Alors ils sont entrés, ils ont attendu jusqu'à ce qu'il lève la tête pour une raison. Alors ils sont venus lui dire. Alors tout ce qu'il leur a dit, c'est mais pourquoi maintenant? Pourquoi vous venez au milieu du limoud? Et il y a des gens qui sont venus de Bnei Brak, des rabbanim, qui voulaient lui poser une question très importante. Ils sont arrivés trop tard. La rabbinite ne les a pas laissés entrer. Pas du tout. L'oncle, il avait cédé, mais sa femme, elle n'est pas entrée. Il a dit, mais pourquoi? C'est fondamental. Il a dit que s'il n'en est pas, il va devenir un ignorant. Et ça, c'est pas possible. Alors, c'est quelque chose. On a l'impression que c'est pas de notre génération, quoi. Mais il était complètement dans son limoud. Et c'est quasiment un autodidacte. Il n'a jamais été à la yeshiva. Il a appris comme ça, je ne sais pas comment l'apprendre. Et tout le monde savait que bon. Déjà quand il était plus jeune, il faisait partie du Beit Din Rabbani, d'un tribunal rabbinique officiel, quoi, quasiment. Donc il est sorti au moment où Goren a permis, enfin, quand il y a eu la conversion de la fameuse histoire. Et quand il y avait un nouveau Dayan qui devait être nommé, il était interrogé par lui. Si lui, il disait c'est bon, c'est bon. S'il disait pas, il ne sait pas, on ne prenait pas. Et tout le monde savait que c'était lui le dernier mot, c'est lui. Pas qu'il ne s'est jamais imposé. C'était évident que. Et des gens. Bon, il y a des gens qui. Sur certains points, il y a des discussions entre M. Zamenerbach et lui. Ils ne sont pas du tout d'accord. Bon, tous les deux sont des géants. Mais après, les autres ont disparu et lui est resté tout seul, puisqu'il a vécu 102 ans. Et jusqu'à la fin, il était absolument clair. Rav Steinman, qui a vécu 104 ans,
C'est aussi clair. 404 ans et...
Alors, je dirais, mais il était plus au courant de ce qui se passait. Lui, il était dans Limoud et il n'avait rien qui l'intéressait que d'autre que Limoud. On raconte que quand sa rabbinite est décédée, il a été obligé, on n'a pas le droit de l'erner quand on est à Vel. Parce que la Torah, on est en deuil. La Torah est considérée comme quelque chose qui nous réjouit, donc on n'a pas le droit d'étudier. Pour lui, c'était une torture. Et alors, immédiatement, dès que les yeshivas étaient terminés, les enfants, ils avaient discuté, mais qui va s'occuper de lui? Maman n'est plus là, etc. C'était réparti. Ils ont voulu lui dire, ah, tu vas faire comme ça. Il s'est levé, il a dit, tout le monde. Il a viré tout le monde. Je vais étudier. Il s'est remis à étudier. Il ne s'est pas occupé de savoir qu'est-ce qu'il allait manger, rien du tout. Ce n'était pas son problème. Enfin, il a manqué de rien, mais... C'est un accro de Limoud, quoi. On ne peut pas dire autrement. C'est comme le Gaon de Vilna. C'était la même chose. Même problème. Il s'occupait de rien. C'est pas du tout évident. Nous qui, quand on n'est pas à ce niveau-là, on a l'impression que bon, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez ce bonhomme. Il n'est pas bon. Il n'a pas les réflexes. On a demandé, une de ses filles est mariée avec Reb Kanievski. Enfin, elle était mariée, elle aussi est décédée. Et on lui a demandé un jour, qui est plus grand? Reb Kanievski, c'est aussi quelqu'un qui sait tout par cœur. Il répète le chasse toutes les années. Vraiment. Et on lui a demandé, qui est la plus grand? Tamit Racham, c'est ton père ou ton mari? Qui est le plus assidu dans le limoud, ton père ou ton mari? Aussi les gens qui l'aiment tout le temps. Alors, il a dit, moi, c'est mon père. Parce que mon père, il ne connaît pas le nom de ses petits-enfants. Tandis que mon mari, il les connaît tous, tous les petits-enfants et les petits-enfants, il connaît tous les noms. Mais mon père, il ne les connaît pas. Et on raconte que il était fils unique de ses parents, et ses parents, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ils allaient en Suisse pour qu'on les aide, et ça n'a pas marché. Ils sont allés en Israël et ils ont eu un fils. Et je crois qu'il avait plus de 2000 descendants à sa mort. Et alors, il a vu des enfants qui étaient la cinquième génération. Halakhiquement, on n'a pas le droit de témoigner pour quelqu'un qui est un proche. Mais s'il a cinq générations de distance, on n'est pas considéré comme proche. Il dit, moi je peux le témoigner pour lui, ou lui peut témoigner pour moi, ou contre moi. Il y avait des gens qui... Il y avait des classes entières qui venaient prendre une bracha avant Rosh Hashanah, etc. Alors, les enfants, ils passaient, on tirait la main. De temps en temps, on lui dit, celui-là c'est un petit-fils à toi, un arrière-petit-fils. Alors, il serre la main un peu plus fort. Non, je ne sais pas si c'est tellement bien de raconter ces choses, parce que pour nous, d'un côté, on est à la fois admiratif, mais quand tu réfléchis, tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est seulement parce qu'on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Mais il avait une clarté. Tout le monde était... Quand il disait quelque chose, c'était immédiatement le plus clair, les sujets les plus confus. C'était une telle clarté. Il y avait des grands... Mon maître, c'était comme ça aussi. Un jour, il y a eu à Paris une grande discussion sur un mikvé entre les rabbanim, savoir les gens qui voulaient construire un mikvé, et puis Rav Rotenberg, le père qui avait beaucoup fait investir des gens sur le nouveau mikvé à la République, qui était à ce moment-là le mikvé, donc ça mettait en danger l'équilibre financier. Et alors, bon, ils se sont opposés, etc. Finalement, on a décidé que c'est Rav Moshe Soloveitchik qui allait décider. Alors, il est venu. Alors, comme ça devait être en terrain neutre, alors c'était chez nous. Et Rav Moshe, il était fatigué. Et la rabbinite, elle a téléphoné à ma femme, elle a dit, il faut faire attention. Et mon mari, d'abord, il n'a rien mangé. Et il est... complètement fatigué et tout. Alors, les gens se sont mis autour de la table, chez nous. Alors, après, il y avait le problème, qui c'est qui sera en tête de table? Alors, on a demandé à Rav Moshe. Rav Moshe ne voulait pas s'asseoir, il voulait s'asseoir dans le... On avait un canapé, il voulait s'asseoir dans le canapé derrière. Il voulait tranquillement dormir pendant qu'il se battait. Alors, on a dit, ben, c'est le seul moyen qu'ils soient tous d'accord. Moi, j'étais le valabait, alors c'est moi qui étais à la tête de la table. Alors, bon, ils ont commencé à expliquer les choses. Et Rav Moshe a l'impression qu'il dormait sur son canapé, là-bas. Ils ont exposé des trucs compliqués, ça a duré longtemps. Bon, quand ils ont fini d'exposer, j'ai l'impression qu'il s'est réveillé. Alors, il a dit, bon, alors le problème, c'est comme ça. Tac, 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 bon, il faut faire comme ça. Et Rav Rothenberg s'est levé, il m'a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai déjà été chez tous les rabbinim de la Terre, quasiment. Cette clarté, ça lui a pas pris 5 minutes pour dire ce qu'ils avaient exposé en se battant de tous les côtés. Et tout le monde était content. Ils ont compris que oui, c'est ça. Pourquoi on s'est battu, on ne sait pas. Tchac. Terminé.
Donc, Rassolévotti, quand même, toute son étude, il la faisait partager à des gens.
Non, mais lui, Rav Moshe, il était extrêmement disponible. Beaucoup plus de Rav Moshe, il voulait pas. On a demandé à Rav Moshe pourquoi. Il a dit, mais vous êtes toujours disponible, ça fait quand même du limoud en moins. Il a dit, si Hachem voulait que j'étudie quelques milliers de pages de plus, bon, il aurait fait comme ça maintenant. Parce qu'il recevait des gens qui venaient du monde entier. Ça pouvait être 2h du mat, hein, il y avait des rendez-vous. Les gens, ils arrivaient d'Angleterre, ou de Motsé Shabbat, ou comme ça. Ils avaient pris l'avion à Motsé Shabbat, ils arrivaient au milieu de la nuit. Chez lui, c'était comme ça. Ça, c'était pas chez Rav Steinman, je crois qu'il y avait plus ce genre de choses. Chez Rav Elishiv, non, il n'y avait pas. Il y avait des gens, et les gens, ils lui posaient des questions. Quand il marchait dans la rue, alors il y avait celui qui avait le droit de poser une question quand il était à cet endroit-là, et l'autre quand il sortait de la voiture, l'autre il était quand il mettait son manteau. C'est vraiment, parce qu'on lui tombait dessus et il répondait. À ce moment-là, il répondait, mais après, quand il était arrivé chez lui, c'était 1 minute. Il ne pouvait même pas entrer. Pardon ? Il parlait visiblement avec sa femme. J'ai vu, il y a. C'est juste. C'est pas dans le même film, mais il y a son gendre, Amram, qui vient avec son épouse, qui est une de ses filles. Ils viennent, ils discutent en limoud. Discuter en limoud, ils pouvaient. Non, c'est pas qu'il est. Il y avait. Bon, avec son gendre, il pouvait discuter de niveau de. Gmarot fermé, parce qu'il n'avait pas besoin. On dit que c'était ça, la discussion entre Moshe Feinstein et ses fils. Bon, c'était comme ça. Oui, la Gmara. Oui, là. Il donnait seulement les adresses. Ils n'avaient pas besoin de dire ce que la Gmara disait. Tout de suite. Si tu n'étais pas dans le coup, tu ne comprenais rien du tout. Et ces gens, ils savent tout. Donc. Qui ?
On a l'air de quoi
avec toutes nos préoccupations. Alors, M. Weinstein, il allait, par exemple, hein, beaucoup plus qu'à Vénéachiv, il allait à des dîners de mariage, ça lui arrivait. Il partait toujours assez tôt parce qu'il se levait, je crois, à 4h30 tous les jours pour étudier, pour écrire. C'est des gens. M. Vincent, il a fait. Rav Elishiv, on ne le dit pas, mais M. Vincent, je crois qu'il a fait, je ne sais pas si c'est 150 ou 200 fois le chasse. Ça veut dire, c'est plusieurs fois par an, il finissait tout le chasse, les Oshamil, le Shulchan Aruch. C'est gigantesque. Après, Kanievski aussi, peut-être pas autant, mais. Et en plus, ils répondaient, eux, alors, à des chalotes ou de chouvotes sans fin, quoi. Mais il y a aussi, il y a des. Je ne sais pas s'il y a 8 ou 10 volumes de réponses de Rav Elishiv qui ont été mises par écrit par les élèves. joie comme ça. Bon, c'est ça. Et il ne mangeait pas de la manne. Mais... C'était la même chose. Pas le...
Ça veut dire que l'étude remplace tout le fait
que... Oui. Talmud Torah, Keneged Kula. Talmud Torah, c'est au-dessus de tout. L'étude de la Torah. Les femmes, elles ne passent pas par là. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose est plus que les autres mitzvot, la mitzvah, les femmes, elles n'ont pas d'obligation d'étudier la Torah pour la Torah. Les femmes doivent étudier la Torah pour savoir comment faire, quoi faire. Mais les hommes, ils doivent étudier la Torah. Même s'ils savent quoi faire, ils doivent quand même étudier la Torah. C'est pas l'étude non fonctionnelle. C'est ça la différence entre les hommes et les femmes. Les hommes ont une obligation d'étudier même ce qui n'est pas fonctionnel du tout. Même si le problème fonctionnel est complètement réglé. Alors que les femmes ont une obligation, évidemment, de savoir qu'il faut bien qu'elles fassent les mitzvot. Pour savoir les mitzvot, il faut bien qu'elles étudient. Elles ne sont pas obligées d'étudier dans la Gemara où il y a toute la discussion. Elles peuvent se contenter de regarder dans le Shulchan Aruch pour savoir comment faire directement. On n'est pas astreint plus que ça.
Ça, c'est pas le rôle des femmes d'étudier
autrement. Non, en général, c'est pas leur fonction. Maintenant, il y avait des femmes qui étaient des éminences grises dans ce domaine-là aussi, je veux dire. Rav Shvadron, à Paris, une fois, il a donné un chiot, il a dit ça, j'ai appris ça de ma mère. Il y avait des femmes qui ont entendu leur père ou leur frère étudier dans la jeunesse. Il y avait un Getzed, ma femme a raconté, Mrs. Kaufman. Quand il y avait un problème dans la Gemara, il demandait au rabbinim, il ne savait pas, c'était Mrs. Kaufman, elle savait. Elle lui a demandé, c'est votre mari? Non, c'est mon père et mes frères, ma jeunesse. Elle écoutait aux portes.
Il
faisait aussi les mitzvot. Lui, il faisait les mitzvot. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui vivait dans sa grotte, il ne faisait pas les mitzvot. Et aujourd'hui, personne ne se permet de partir faire les mitzvot à ce titre-là. Non, on a des endroits où on le voit très bien. Enfin, il allait à la prière régulièrement, à la tfila. Il y a des photos, il y a des films où on le voit avec son loulav, etc.
Il donnait des cours
aussi. Il donnait des cours, oui. Il donnait des cours. Hein. Mais justement, tout ça, c'est dans un tout petit endroit. C'est incroyable. Chez Ramesh Feinstein aussi, il n'y avait presque personne au cours de Ramesh Feinstein. On croit toujours que c'était. Presque personne. Aujourd'hui, même chez David Feinstein, je ne sais pas s'ils sont mignons. Non, mais c'est difficile de suivre et. Fonctionnel, oui, mais non fonctionnel, parce qu'elles ont d'autres choses à faire. On peut pas tenir. Si on est responsable d'une maison, on peut pas avoir cette disponibilité dans l'étude. À la limite, on voit très bien que la plupart de ceux qui ont joué des rôles pareils, ils avaient des femmes qui ont complètement, ils ont déchargé de quasiment tout.
Mais imaginons qu'une femme, elle, je sais pas, une domestique qui fait tout, elle pourrait pas du tout.
Les femmes n'ont pas un interdit d'étudier.
Oui, mais c'est pas une obligation.
Mais c'est l'obligation qu'elles n'ont pas. Alors bon, c'est vrai qu'il y a certains, à Satmar ou comme ça, pensent que les femmes ne devraient pas étudier. parce qu'elle risque de... Elles ont une tendance à prendre les choses un peu trop légèrement, etc. Bon, ça, je pense que c'était peut-être vrai à un moment donné, dans... bien que les filles de Rachid ont émetté les tchilines, je veux dire... Ah non?
Au nom de quoi elle mettait les
tefilines? On a le droit de mettre les tefilines, il faut garder ça. Il y a un problème de goufnaki, ça veut dire on doit être sûr de maîtriser son corps. Donc, comme les femmes, elles ont des situations dans lesquelles elles ne se maîtrisent pas le corps, alors en général, elles ne le font pas. Mais si une femme sait qu'elle est capable, bien, je ne sais pas à quel âge elles ont mis les tefilines, je veux dire. Peut-être qu'elle les mettait seulement à la fin de leur vie, je ne sais pas quand. En plus, je ne suis pas sûr que...
Autant pour un homme, c'est...
Pardon ?
Pour un homme, c'est une mitzvah, pour un homme, c'est une mitzvah.
Pour un homme, c'est une obligation.
Une obligation et une mitzvah.
Et c'est à ce titre-là qu'on se permet de mettre les tefilines. Mais bon, par exemple, si quelqu'un il a des problèmes intestinaux, il ne met pas les tefilines. Le Chazonich, pendant assez longtemps, il était malade, il avait des problèmes, il ne mettait pas les tefilines. Il ne faisait même pas de brachot. À un moment donné, le médecin lui avait dit que... Parce que quand il disait le Shem Hashem, ça le... C'était une expérience, une expédition. Il disait... Nous, on disait les brachot comme ça, mais lui, quand il disait le Shem Hashem, c'était un truc. Il a attrapé, je crois, une méningite, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il a attrapé. Le médecin lui a interdit de dire les bénédictions. Il mangeait sans bénédiction. Il disait en yiddish, il disait, je n'ai pas le droit de faire la bracha, alors je te remercie, Hashem, etc. Mais il ne disait pas la bracha. Pendant longtemps. Et les tefilines, pas les mettre. Et nous, normalement, on devrait mettre les tefilines toute la journée. Mais bon, ça fait longtemps que le Gaon de Vilna, il mettait toute la journée. Il y avait à Yerushalayim, il y avait Rav Peter Scheinberg, un juif américain. Celui qui avait. Il mettait les talitotes d'après toutes les chitotes. Il a pris qu'il avait 18 talitotes sur la tête. Il a pris ça pour. Sa femme était malade. Il s'est engagé à ça. Il met mettre les tzitzit, toutes les chitotes de talit. Donc il avait un talit avec toutes les opinions. Il avait l'air d'un joueur de football américain. À côté de lui, là, quand tu vois les photos, c'est. Et il mettait les tefilines toute la journée aussi. En tout cas, toute la matinée. Mais les gens qui ne mettent pas, c'est parce qu'on n'est pas capable de... Parce que quand on met les tefilines, on est censé y penser tout le temps. On est toujours conscient qu'on a les tefilines sur la tête. Beaucoup, la plupart, aujourd'hui, on ne met plus les tefilines toute la journée. Donc la plupart des femmes... C'est pas nécessaire. Si on n'est pas obligé, les hommes non plus, on ne le mettrait pas. On se permet de les mettre parce qu'on est obligé, alors on s'acquitte de ça en mettant quelques minutes les tefilines. Je veux dire, il y a des gens qui mettent les tefilines et ils les enlèvent. Pour les avoir mis, mais ils ne peuvent pas mettre pour plus longtemps, ils ne peuvent pas garantir.
Je ne comprends pas ce que ça a comme signification.
Pardon?
Je ne comprends pas ce que ça a comme signification pour une femme. Je veux dire, pour un homme, c'est une obligation. Femme,
c'est aussi ça, le problème, ça a la même signification qu'un homme. Les tefilines de Roche, c'est je vais asservir, si on veut, ma pensée à la Torah, et aussi ça c'est mon action. Donc l'action et la pensée, c'est en fait c'est intéressant parce que le passou qui dit tu mettras les tefilines le ma'an tiyé Torah Hashem beficha. Pour que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. C'est-à-dire, il y a l'action et la pensée, et pour coincer, pour faire en sorte qu'on ait en bouche la Torah d'Hachem. C'est la parole, quoi. Produire une parole d'Hachem.
Du Torah en lui-même.
Oui, oui.
Mais
on met les tefilines pour pouvoir, pour nous aider, c'est parce que mettre les tefilines, ça aide à produire ce qui est une vraie parole d'Hachem. C'est-à-dire se lire, avoir conscience au niveau de la pensée et au niveau de l'action, donc c'est ça produit, en fait, ça oblige la parole d'être dite. C'est aussi ce que je vous ai j'ai dit à Mme Malka sur le nœud des tefilines, là, dans le trou occipital. Bon, avec ça, ouais. Donc le problème de l'épreuve, le Ramban au moment de la Akeda Tisrak, donc il dit là-bas, Hachem enot tsarich ton nisayon. Hachem évidemment il n'a pas du tout besoin de l'épreuve pour savoir ce qu'il en est. Sharu yodea maïe. Alors Hachem savait qu'Abraham allait passer avec succès le nisayon de la Akeda. Mais pourquoi il l'a éprouvé alors, puisqu'il le sait? Donc on dit, c'est la tête le sachar al maase, velorak al sachar al levtov. Il faut avoir passé le maase, c'est-à-dire concrètement, l'avoir inscrit en acte. Pas simplement que, bon, dans son cœur c'était clair. Bien sûr qu'Abraham avait un bon cœur, si on peut parler comme ça, un cœur convenable. Il était prêt de sacrifier son fils. Mais Hachem voulait lui donner le mérite d'avoir passé quasiment à l'acte. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il insiste tellement. Quand Hachem dit, tu ne peux pas le toucher, on lui dit, mais je voudrais faire seulement une entaille, puisque tout l'intérêt, c'est de passer à l'acte. Et Hachem lui dit, non, ça tu ne peux pas. Parce que cet acte-là, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles on ne demande pas plus que la pensée ou la parole. Il y a des actes qu'on ne peut pas faire. C'est tout ce qui concerne aujourd'hui le Beth Amikdash. On ne nous demande pas d'approcher des corbanotes. On ne peut pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de misbère. On nous demande d'aller dans ce domaine-là aussi loin que possible, c'est-à-dire à établir la halakha, à la réfléchir et à étudier et prononcer les choses. L'épreuve, c'est toujours évidemment pour l'éprouver, c'est pas pour Hachem, pour qu'Hachem sache. Donc ici aussi, finalement, c'est pour eux. Ce que je veux, c'est qu'ils apprennent, dit Hachem, à avoir avec la nourriture le rapport correct. J'ai la nourriture pour un jour. Le lendemain, j'ai rien. Hachem sait que finalement, ils vont réussir. Mais il faut que ça se passe en acte. Mais jusqu'à ce qu'ils y arrivent, ça a commencé par ne pas marcher. D'abord, ils ont fait des provisions qui n'ont pas marché, comme vous savez. Puis ensuite, on leur a dit que Erev Shabbat, il tomberait une double part. Une part pour le Erev Shabbat et une part pour Shabbat. Et que ce qu'ils allaient mettre de côté pour Shabbat, cette part-là, elle ne pourrirait pas. Ils viennent de faire l'expérience que quand on met de côté, ça pourrit. Donc il faut leur dire, il n'y en aura pas à Shabbat. Et il faut que vous mettiez de côté. Vendredi, vous avez une double part, C'est de là que vient l'Ere Mishne. Les deux pains qu'on prend en Shabbat, ça vient de là. Et le fait de couvrir le chalot avec un couvercle, avec un tissu, éventuellement l'envelopper, ça vient de, c'est réminiscent de la rosée qui enveloppait la manne. Non, pas pour lui, nous. Pour nous. Nous sommes des gens d'action. Et tout ce que nous pensons, c'est, d'une certaine manière, c'est encore flou. C'est pour ça qu'il faut passer à l'acte. C'est ce que, bon, il y a des gens, ils passent leur temps à arriver à assassiner leur voisin, ou leur, etc. Mais bon, tant qu'ils ne passent pas à l'acte, on ne va pas les condamner. Même les gens, bon, aujourd'hui, si on fait des menaces, des paroles, alors éventuellement, on risque d'être condamné pour menaces. Mais ce n'est toujours pas la même chose que quelqu'un. Ce n'est pas le passage à l'acte, quand même. Non, c'est les épreuves sont pour nous. Et non. Aucune fonction de par rapport à Hachem, ça ne sert à rien du tout, évidemment. Hachem, lui, n'a pas besoin de... Ben, ça, là, c'est quelque chose pour nous. Mais à la limite, dans les relations humaines, c'est comme ça aussi. Hein. Vous avez beau répéter à l'être aimé que vous l'aimez, mais le problème, c'est où sont les actes. Ce sont les fameuses preuves d'amour. Quoi. S'il n'y a pas de preuves d'amour, bon, c'est les paroles en l'air.
C'est quand on dit Hachem qui a créé un homme avec une échelle et un corps, c'est pour que les choses se passent de cette façon-là.
Pour que
le... Pour que tout se passe suivant ce processus-là.
Oui, mais c'est pour ça que le corps doit fonctionner. Il faut mettre le corps à contribution. Il faut que, au niveau du corps, donc au niveau de l'acte, les choses se fassent. Si Hachem avait voulu, il aurait créé des anges. Visiblement, c'est pas très intéressant. Hachem, il voulait des êtres capables de désobéir. Parce que l'obéissance n'a de sens que chez quelqu'un qui est capable de désobéir. C'est quelqu'un qui est... Si vous avez un robot qui ne peut que obéir, son obéissance n'est pas une véritable obéissance. L'obéissance, elle se constate par opposition à la désobéissance. Voilà, on va rester là. Merci d'être venu, parce qu'il s'est passé. Pardon ? Le quorum, alors. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas dans leur monde simplement, ils sont dans le monde de la Torah.
Oui, mais alors justement, si eux sont dans le monde de la Torah, là nous on n'y est pas.
Nous on n'y est pas à ce point-là, non. Nous on y est par petit moment, mais. Mais c'est pas. c'est... Si tu veux, tu peux. Hein. Oui. Il y a des gens qui ont essayé de copier. Ils ont voulu faire comme lui. Essayer de prendre son rythme, etc. La plupart, au bout de quelques mois, ils ont dit, on va devenir fou si on n'y arrive pas. C'est bon. Non, mais il n'attend pas de vous et de moi, ça. Tu vois, c'est difficile. Même Sarah Banit, on disait que Sarah Banit, c'était la fille de Rabbi Levin. Rabbi Levin, c'était le rave qui avait soutenu tous les gens qui avaient fait la guerre contre les Anglais sous le mandat. Il y a plein de juifs qui étaient en tôle, etc. Lui, il allait les soutenir, etc. C'est de lui qu'on dit qu'il est allé avec sa femme chez le médecin. Il a dit, nous avons mal au pied de ma femme. C'est de lui que c'est Rabbi Levin. Et c'était le père de la Ravis. Et lui, il venait quasiment tous les jours pour la soutenir, quoi, parce que c'est une vie... Pour une femme, c'était pas évident. Hein. Il y a une très très grande famille, ils ont vécu dans deux pièces, on ne sait même pas comment ils ont réussi à vivre. Puis là, il n'a jamais changé non plus d'appart, il avait un tout petit appartement. Bon, il était bourré de farine. Elle est rabbanite, elle avait probablement besoin d'aide pour tenir le coup, parce que. Elle était très. Très heureuse, mais d'un autre côté, on a besoin peut-être de... C'est son père qui le lui a donné. Son père qui était aussi avant, famille de femme et tout, mais qui lui était vraiment très ouvert sur tout ce qu'on raconte de lui. C'est quasiment des miracles, tout son souci des gens, son empathie et tout, c'était tout à fait exceptionnel. Je ne sais pas si c'est traduit en anglais. Parce que je crois qu'il y a une biographie un peu rikiki, mais tu vois, ces biographies où on dit que les bonnes choses. C'est vrai que c'est difficile d'écrire un livre pour dire les faiblesses du Hafetz Chaim. Mais tu vas écrire, quoi. Mais il n'est pas devenu Hafetz Chaim comme ça. Il a sûrement, il a lutté aussi, il dit lui-même qu'il a lutté contre le Tzara, y compris celui de la Shonara, même si c'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch du la Shonara. Mais on peut pas, dans les biographies, c'est pas marqué. Par contre, ils vous diront exactement le temps qu'il faisait quand il est né, savoir qu'il y avait le ciel bleu, etc., ça ils vous diront. Mais pour dire, bon, ces biographies, elles sont, bon, c'est pour les enfants. Et encore, ouais. Je crois qu'il y en a une comme ça un peu. Mais est-ce que c'est traduit en français? Je sais pas. Ça existe en français, Rabbi Levin?
De
Ravi
Lachi.
Ah, de Ravi Lachi, oui. Bon, il y en a plusieurs qui sont sortis. Il y en a peut-être une. Non, je voulais dire Rabbi Levin. Ravi Lachi, ça a fait beaucoup de bruit, il y en avait plein dans les journaux et tout. Mais Rabbi Levin, vous le connaissez probablement moins bien, donc. Pas sûr qu'il n'y en a pas là-bas dans le deuxième Beit HaMidrash, là-bas en français. Si vous en trouvez une, vous pouvez l'emprunter. Juste nous dire. Voilà.